Nzamba.
Nzambi la Samirana.
Merci de rester à l'écoute de la radio Nzamba Agathe Kakawe. Nous sommes lundi 12 juillet 2021. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française. À la présentation, Joséphine Johnson-Mundimana. D'abord, les principaux titres de cette édition. Le ministre de l'Intérieur donne un délai de 2 semaines aux administratifs de reconstruire les maisons qu'ils ont détruites en violation des directives du ministère. Le ministre Gervais Ndirukobucha l'a déclaré ce lundi dans une descente qu'il a effectuée en commune Mukaz. Et puis, c'est l'indignation au sein des enseignants de l'école fondamentale de Kizuga en commune Buyengero dans la province de Lubumbashi. Un de leurs collègues est accusé du harcèlement sexuel sur les enfants qu'il enseigne. La fermeture des frontières burundo-rwandaises de Rua et les différents postes frontaliers avec la RDC plonge certaines familles des commerçants de la province de Cibitoke dans une misère sans nom. Leurs activités sont au ralenti. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Page diplomatique en bref pour commencer cette édition. Le président de la République du Burundi a pris l'avion à destination de la République démocratique du Congo à l'invitation de son homologue congolais Félix Tshisekedi. Durant cette visite de travail de 2 jours, Évariste Ndayishimiye rencontrera tête à tête Félix Tshisekedi. Au chapitre de l'éducation, ras-le-bol des enseignants de l'école fondamentale Kizuga dans la commune Buyengero de la province Lubumbashi face au comportement de leurs collègues. Il s'agit du titulaire de la classe de 8e. L'enseignant est en effet accusé de harcèlement sexuel sur certains de ses élèves et de monnayage des points. Ses collègues réclament donc des sanctions à son endroit. Les précisions de Vanessa Muhiteka.
Cet enseignant en colère se dit révolté par l'attitude de son collègue, Juvenal Ndayidagije, attitude qui ternit l'image de l'Ecofo Kizuga. Les examens de repêchage qui étaient prévus le 30 juin dernier à cette école n'ont pas eu lieu. La raison, des élèves ont révélé aux autorités de l'école le chantage dont ils étaient victimes de la part du titulaire de leur classe, selon son récit.
Il a réclamé à l'une de ses filles une somme d'argent qui équivaut à une caisse de bière. À l'autre, il a proposé un rendez-vous pour coucher avec elle quelque part dans la nature. Les deux filles se sont concertées et ont toutes refusé de céder à son chantage. L'enseignant lui a alors retiré des points dans des cours dispensés par d'autres enseignants de façon à donner à chacun d'elles moins de 50%. Quand ces filles ont vu ça, elles se sont senties tellement frustrés qu'elles ont décidé de le dire, ce qui a fait que la délibération a été confortée.
Les enseignants de l'Ecofo Kizuga estiment par ailleurs que le responsable de cette école devrait se pencher sur le cas de Juvenal Ndayiragije avant qu'il ne soit trop tard.
Cet enseignant s'est mis la pagaille dans cette école. Nous refusons qu'il souille nos enfants. Tenez, dans d'autres écoles, les élèves sont déjà en vacances, sauf ceux de cette école. Qu'ils soient mutés parce que son comportement est insupportable. Ce qui nous révolte le plus, c'est le silence de la direction qui ne dit rien sur son cas, comme si de rien n'était.
De son côté, je vais dans Ndayiragije. Ni catégoriquement les faits qui lui sont reprochés.
Non, ce n'est pas du tout vrai.
Nous n'avons réussi à joindre par téléphone ni le directeur de l'Ecofo Kizuga, ni le directeur communal de l'enseignement à Buyengero pour plus d'éclairage.
L'enseignant qui affiche un tel comportement constitue un danger pour l'éducation, selon Eulalie Nibidi, parent et activiste en droit de l'enfant. Il devrait donc être puni et chassé du secteur de l'enseignement. On écoute Eulalie Nibidi.
Il a vendu les droits des enfants, le droit au résultat, le droit à l'éducation. Là, c'est la première faute. Et c'est une faute très grave qui est punissable par le règlement scolaire, par la loi. La deuxième faute est aussi grave, c'est le fait de voir que les élèves ont résisté et de les punir en changeant le bulletin. Même s'il est titulaire de classe, personne n'a le droit de changer la note des élèves, si ce n'est que le professeur. Mais là aussi, selon les prévisions de la loi, il a volé les résultats. Parce qu'il a mis des résultats qui sont tirés des cheveux. Il a fait perdre du temps à ses collègues. Ça, ce sont des fautes graves. Pour toutes ces fautes-là, l'enseignant mérite d'être traduit en justice et d'être puni sévèrement. À côté de cela, il doit payer une réparation envers ses élèves qui ont été traumatisés par ses harcelés. La deuxième chose, être tiré du système éducatif, non seulement à l'école, mais être chassé du système éducatif pour qu'il ne revienne plus jamais comme éducateur. Un éducateur qui se comporte comme tel est en danger pour l'éducation, est en danger pour la jeunesse.
En économie, différentes familles et des commerçants de la province Cibitoke s'indignent contre la fermeture des frontières burundo-rwandaises de Ruwa et les différents postes frontaliers de la Rusizi sur la frontière avec la République démocratique du Congo. Les communes les plus touchées sont celles de Lugombo, Mugina et Buganda. Reportage signé d'Elicia Kamikazi.
Les habitants de la province de Cibitoke touchés par la fermeture de la frontière Ruwa au nord-ouest du Burundi sont principalement ceux des communes Lugombo, Mugina et Buganda. Selon eux, ils mettaient à profit une intensification de la route nationale numéro 5 Bujumbura-Cibitoke-Ruwa. Des usagers de cette route, dont les Congolais utilisaient la route et constituaient une valeur ajoutée pour les petits commerçants, ce qui faisait vivre de nombreuses familles. Les habitants de Cibitoke indiquent que depuis la fermeture des frontières, ils mènent une vie très misérable.
Depuis la fermeture des frontières, principalement la frontière de Ruwa avec le Rwanda, les postes frontaliers qui passent par la Rusizi, la vie des commerçants est très déplorable. Il n'y a plus de mouvement transfrontalier et comme conséquence, la faim dans les familles qui vivaient du commerce. Pour le moindre déplacement vers la Rusizi, vous êtes appréhendé, accusé de faire la fraude. Plusieurs personnes ont abandonné le chemin qui mène vers la Rusizi sur la frontière avec la République démocratique du Congo.
À Gasenyi, au chef-lieu de la commune de Buganda, des vendeurs de la viande des chèvres expliquent que chacun pouvait en vendre une dizaine par jour avant que la situation change. Des vendeurs des fruits faisaient couler une importante quantité à Lugombo, à Mugina, comme à Buganda. Ils font savoir qu'ils faisaient vivre les familles en vendant des tomates, des mangues, des pastèques, des poissons produits du lac Dogodogo. La vie a brusquement changé avec la fermeture de la frontière avec le Rwanda, bloquant ainsi la circulation de ces Congolais. Les habitants de la province de Cibitoke demandent au gouvernement burundais de s'asseoir ensemble avec le gouvernement rwandais pour dialoguer sur la réouverture du poste frontalier de Ruwa.
Ceux qui travaillaient dans des restaurants, ceux qui vendaient de la viande tous, travaillent au ralenti parce qu'il n'y a plus de mouvement. C'est une misère sans nom. Vous pouvez manquer de frais pour soins de santé. Quand vous n'êtes plus à mesure de vous faire soigner et que vous êtes sous-nourri, c'est la mort. La faim tue et la misère tue. Le paiement des frais de scolarité pour les enfants est devenu un fardeau. Nous demandons au gouvernement du Burundi et les instances de commerce de plaider pour l'ouverture des frontières. En premier lieu, la frontière de Ruwa. Ensuite, les postes frontaliers de la Rusizi pour permettre la redynamisation des mouvements transfrontaliers et par conséquent le retour de la fortune pour que les familles ne continuent pas de mourir de faim.
Tout comme d'autres frontières, notamment avec la Tanzanie et la République démocratique du Congo, le poste frontalier de Gatumba, les habitants de Cibitoke demandent également la réouverture des postes frontaliers sur la rivière Rusizi.
Les administratifs qui ont abusé de leur pouvoir pour s'adonner à des destructions abusives doivent reconstruire tout ce qu'ils ont démoli d'ici 2 semaines. L'ordre a été donné par le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndilukobucha, qui dit avoir constaté que des administratifs ont mal exécuté ces directives sur la destruction des constructions qui ne respectent pas la loi. Il était en visite à Mugoboka, en commune de Mukaza, mairie de Bujumbura, où il dit avoir constaté ces abus. Je vous propose de l'écouter.
Nous sommes venus tôt ici pour constater nous-mêmes à propos des plaintes de la population que nous entendions depuis quelques jours disant que leurs maisons ont été détruites. Nous l'avons tous vu et le constat que nous venons de faire est que ce qui s'est passé ici est triste. Ce qui nous étonne et nous fait très mal, c'est qu'aucun agent de l'urbanisme n'est jamais venu viabiliser ici. Aucun agent de l'urbanisme n'est venu pour déterminer où les routes seront tracées. J'ai même l'impression que ce ne serait pas facile de le faire, même si on le décidait maintenant. Je voulais montrer que dans tout cela, les ordres du ministère de l'Intérieur n'ont pas été respectés. Pour cette raison, je voulais demander à ceux qui ont fait ça, et c'est la dernière chance que je leur donne, que d'ici 2 semaines, ils aient eux-mêmes reconstruit tout ce qu'ils ont détruit. Et si ce qu'ils ont détruit a causé une fissure quelque part, ils doivent tout démolir pour reconstruire et remettre en bon état. Et je leur demande que je n'entende personne se plaindre d'avoir été maltraité. Ils vont utiliser leurs propres moyens pour remettre les choses dans leur état initial. Ils vont s'organiser comme ils l'ont fait quand ils ont détruit. Tout ce que je veux, c'est qu'à mon retour ici dans 2 semaines, les maisons retrouvent leur état d'avant.
Signalons que les plaintes liées aux abus des administratifs dans la destruction des maisons supposées ne pas respecter les limites sont enregistrées partout dans le pays où cette mesure a été prise. 3 réfugiés burundais ont été tués, 5 autres grièvement blessés par des hommes armés de machettes au cours des mois de mai et juin dernier. C'est ce qui ressort du rapport bimensuel de l'association Dynamique pour les droits des réfugiés en Tanzanie. Selon ce rapport, les réfugiés burundais en Tanzanie connaissent des difficultés énormes. S'ils ne sont pas tués, ils ont des problèmes d'accès aux soins de santé et à l'éducation. Le contenu du rapport avec Benny Axelakana.
Le rapport revient sur des cas de 3 personnes tuées. Il s'agit de Madame Milakoze Blessing du camp d'Onduta, morte en date du 3 juin suite au manque de moyens pour se faire soigner. Dans le même camp, Diokoub Gaye Omar a été tué à coups de machette, c'était le 13 juin dernier. Un 3e dont l'identité n'est pas révélée par le rapport, il a été tué au camp de Mtendeli le 10 juin, lui aussi assassiné à coups de machette. Les blessés lors de différentes attaques sont évalués au nombre de 5. 4 sont du camp de Mtendeli et 1 cas au camp d'Onduta. Selon le rapport, les accusés sont des jeunes Tanzaniens des Banyamugambo. Concernant les arrestations arbitraires, le rapport parle de 2 cas recensés au camp de Mtendeli. Pour sortir des maisons d'incarcération, les concernés doivent payer d'abord une amende de 400 000 shillings tanzaniens. Dynamique pour les droits des réfugiés en Tanzanie a aussi visité le domaine de la santé et celui de l'éducation. Dans ce dernier, il se remarque un manque criant de matériel didactique et d'enseignants qualifiés, surtout dans des classes post-fondamentales. Dans le même domaine, des cas de corruption sont signalés surtout dans le recrutement des enseignants. Le secteur de la santé n'est pas des moins miné. Le rapport parle d'un manque de médicaments dans toutes les structures de santé des camps de réfugiés en Tanzanie. Seules les pharmacies privées peuvent servir, mais à des prix qui dépassent les moyens des réfugiés. Conséquence, beaucoup de morts enregistrées. Face à cette situation, la Dynamique pour les droits des réfugiés en Tanzanie sollicite l'intervention de la plus haute autorité de la République unie de Tanzanie pour que les violations des droits des réfugiés burundais qui sont sur le sol tanzanien cessent.
Inzamba. Et puis, les chauffeurs de la société Interpétrole demandent au président Evariste Ndayishimiye de les aider à trouver une solution aux problèmes liés à leur travail quotidien. Parmi ces problèmes, les disparités salariales pour les gens exerçant la même fonction et la non-assistance médicale. Ils disent avoir soumis la question au patron de la dite société, mais sans réponse. Reportage signé Jacob Sibomana.
Les chauffeurs de la société Interpétrole font savoir qu'ils n'ont aucun contrat de travail. Le patron de cette société, Talouk Bachir, les paye comme bon lui semble. Et certains viennent de passer 4 ans sans contrat.
Un conducteur de camion qui transite peut percevoir 100 000 francs par mois, alors que d'autres chauffeurs de même statut reçoivent de 400 000 francs à 500 000 francs burundais et personne n'ose lever le doigt pour revendiquer de peur d'être chassé. Nous demandons au président de la République de prendre en main cette question.
Ces employés soulèvent aussi le problème de sécurité sociale au travail.
Pas d'assistance médicale, aucune sécurité sociale comme les employés d'autres sociétés. Une société aussi grande, le directeur général peut se chasser comme bon lui semble.
Les chauffeurs de la société Interpétrole sont en nombre de 400 aujourd'hui. Nous avons cherché Talouk Bachir, le patron de la dite société, pour de plus amples informations, mais sans succès.
La démographie galopante au Burundi serait un handicap incontournable au développement socio-économique du pays si rien n'est fait dans l'immédiat. C'est l'avis de l'ONG Parsem dans son étude menée dans 3 provinces du Burundi. Faustin Dikumana, le directeur exécutif de Parsem, Parole et Action pour le changement de mentalité, appelle au gouvernement de mettre en place une politique de la population dans ses programmes. Écoutez Faustin Dikoumana.
D'abord, sur l'analyse de la situation démographique, au niveau de la pression sur les ressources naturelles. Tenez, en 1973, on avait 1 hectare par ménage, surface cultivable. En 2009, on en était à 0,5 hectare. Maintenant, on est à 0,25, un quart d'un hectare. Sans oublier 30 personnes de ménage aujourd'hui dans ceux qui sont sans terre cultivable. 3% de déboisement au niveau national annuellement. 683 000 hectares de pâturage en 1996 et 483 000 hectares de pâturage en 2009. Réduction de 200 000 hectares en 13 ans. Et maintenant, ça continue à aller décrescendo. Sans parler de la malnutrition, plutôt 50% des enfants mal nourris. Taux de pauvreté monétaire, un compte de vie qui dépasse 75% dans plusieurs provinces, l'accès à la scolarisation, les conditions, vous savez qu'il y a des enfants encore qui étudient assis par terre, le nombre d'élèves par classe qui est élevé, aussi le lien avec la croissance démographique aujourd'hui. J'ai pris l'exemple de trois provinces. En 2010, la province de Kayanza avait une population de 687 000. En 2020, 900 000. Dans 25-30, il y aura 1 500 000. Gitega, en 2010, 850 000. Aujourd'hui, 1 110 000. Dans 25 ans, plus, il y aura 1 900 000, quelques fois, même 2 millions. Ngozi, 2010, 750 000 habitants. 2020, 1 million. Dans quelques années, 25 plus tard, on aura 1 700 000. Est-ce qu'on aura des ressources suffisantes pour nourrir cette population, l'éduquer, la soigner dans des conditions descente. C'est pour cela que nous demandons alors au gouvernement de mettre sur pied cette politique nationale de population pour tracer la trajectoire. Nous avons besoin d'un Burundi qui se nourrit comment? Un enfant doit manger combien de fois par jour? Combien d'élèves par classe? Combien d'habitants par médecin? Par hôpital? Il faut tracer tout ce qui doit qualifier les conditions de vie décente d'une population.
Signalons que l'ONG Parsem lance cet appel au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la population ce 11 juillet. Page sécuritaire à présent, une sexagénaire a été tuée à l'aube de ce lundi sur la colline et commune Kiremba en province de Ngozi. Généreuse Chimaï a été tuée à coups de poignard par son mari. Ferdinand Maruregua, le présumé auteur du crime, a profité quand la victime était au lieu d'aisance, puis il a commis le forfait. Après, il s'est remis dans les mains de la police. Les mêmes sources font savoir qu'on pouvait constater 9 coups de couteau sur le corps de la défunte. Et d'après les témoignages de leurs voisins, les deux ne vivaient plus sous le même toit car ils avaient légalement divorcé. Chacun gérait ses propres biens, ce qui n'empêchait pourtant pas qu'ils se regardent toujours en chien de faïence. Les administratifs déplorent la disparition de cette personne et invitent la population à saisir toujours l'administration chaque fois qu'il naît une mésentente dans des familles sans pour autant se faire justice. Surtout que la loi réprime sévèrement pareil crime. Sport, avant de clore ce journal, la Coupe d'Europe de football a été remportée par l'Italie, la deuxième de son histoire après celle gagnée en 1968. En Copa América, la Coupe est rentrée en Argentine. Le dernier sacré de ce pays dans cette compétition remonte de 1993. Les détails avec Valérie Mucho.
La 16e édition de l'Euro 2020 a été remportée par l'Italie qui s'est imposée devant l'Angleterre, soutenue par 60 000 spectateurs dans le stade de Wembley. Après un match nul d'un but partout, les deux sélections sont passées par la pénible séance des tirs au but. Cet exercice a souri à la Squadra Azzurra qui a marqué 3 pénaltys contre 2 pour les Three Lions. L'Italie a gagné son 2e trophée dans cette compétition après celui de 1968. Le défenseur italien de 34 ans, Leonardo Benucci, a été élu meilleur joueur de cette finale. Pour la première fois de l'histoire de l'Euro, un gardien est nommé meilleur joueur de la compétition. Il s'agit de l'Italien Gianluigi Donnarumma, 22 ans. Le Portugais Cristiano Ronaldo est quant à lui meilleur buteur avec 5 buts, ex aequo avec Patrick Schick de la République tchèque. Mais celui-ci est devancé par le Portugais qui a délivré une passe décisive en plus de ses 5 buts. Concernant les autres distinctions, le prix du meilleur jeune de la compétition a été décerné à Pedri de l'équipe nationale espagnole qui a 18 ans. Le trophée du meilleur passeur de la compétition a été décerné au Suisse Zuber. Sachez aussi que 142 buts ont été marqués en 51 matchs durant cet Euro 2020. Sur le continent sud-américain se déroulait la Copa América. L'Argentin Lionel Messi a brisé la malédiction après 3 échecs en finale de cette compétition. et une finale en Coupe du Monde en 2014. La finale opposait l'Albiceleste au Brésil de Neymar. L'Argentine a battu le Brésil sur son sol au stade mythique de Maracana sur un score d'un but à zéro marqué par Di Maria. L'Argentine courait derrière ses trophées depuis 1993. Lionel Messi a raflé tous les prix du tournoi. Il a été désigné meilleur joueur, meilleur buteur avec 4 buts et meilleur passeur avec 4 passes décisives. Avec cette coupe, l'Argentine égale l'Uruguay avec 15 trophées au total en Copa América.
Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous et à la prochaine.